Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Wargon. Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour Hervé Gardette.
Vous êtes ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique en charge du logement. Vous avez fait carrière dans le public et dans le privé. Vous êtes passé notamment au ministère de la Santé ainsi qu'au sein du groupe Danone. Alors c'est un sujet qui revient chaque année à l'approche de l'hiver, celui du mal logement. La France se retrouve à court d'hébergement pour parer aux situations des plus démunies. Selon la Fondation Abbé Pierre, il y aurait aujourd'hui dans le pays près de 300 000 personnes sans domicile fixe. Mais cette année, l'alerte est montée d'un cran. La pandémie de Covid-19 a fragilisé économiquement une partie de la population. Les associations redoutent que certaines familles ne soient plus en mesure de payer leur loyer ou de rembourser leurs emprunts et se retrouvent à la rue. Plus largement, la France reste confrontée à une pénurie de logements. 400 000 sont créés chaque année. Selon certains experts, il en faudrait 1 million et pas n'importe lesquels. La transition écologique oblige à repenser la conception des bâtiments, sachant que ce secteur représente 18% des émissions de gaz à effet de serre. C'est dire, Emmanuel Wargon, si votre ministère est au cœur de problématiques importantes. Alors, il y a beaucoup de sujets abordés avec vous au cours de la prochaine demi-heure. Et je voudrais commencer par ce chiffre donc de la Fondation Abbé Pierre. Près de 300 000 personnes sans domicile fixe aujourd'hui en France, le double par rapport à la dernière enquête de l'INSEE qui datait de 2012. Je voudrais d'abord savoir si vous, comme ministre du Logement, vous partagez le constat de la Fondation Abbé Pierre.
Je partage globalement le constat de la Fondation Abbé Pierre, mais avec une question sur qu'est-ce qu'on appelle sans domicile fixe. Parce que dans ces 300 000 personnes, environ 290 000 sont hébergées, c'est-à-dire sont dans des centres d'hébergement d'urgence ou dans des hôtels financés par l'État. Donc des vrais SDF, si je peux dire, des personnes qui sont à la rue, l'ordre de grandeur, c'est autour de 10 000. C'est difficile à dire et je partage le besoin de mieux chiffrer. La dernière enquête INSEE date de 2012. J'ai demandé à l'INSEE de voir à quel moment on peut relancer une enquête statistique.
Vous avez raison d'ailleurs de préciser que SDF et sans-abri, ça n'est pas la même chose. Dans les chiffres que communique la Fondation Abbé Pierre, s'agissant des sans-abri, c'est plutôt 27 000 que 10 000. Il ne s'agit pas évidemment de polémiquer sur les chiffres, mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'avoir une idée un peu précise du nombre de personnes sans-abri aujourd'hui en France ?
En tout cas, si on parle d'ordre de grandeur, on a bien de l'ordre de 300 000 personnes qui n'ont pas d'endroit où habiter, qui ont besoin d'être hébergées, c'est-à-dire d'avoir un toit sur leur tête, et on en héberge environ 290 000. Donc c'est en ordre de grandeur, c'est à peu près clair. Après, pour le nombre de personnes qui dorment dehors chaque nuit, c'est difficile, parce que ce sont des enquêtes difficiles à faire. Les nuits de la solidarité sont utiles. Vous savez, c'est les moments où, dans une ville, on va les uns, les autres, tous ceux qui le souhaitent, les associations, les citoyens, dans les rues, pour voir à un moment donné combien il y a de personnes dans les rues, dans les jardins publics, dans des endroits plus difficiles. Et moi, j'aimerais monter une nuit de la solidarité nationale, c'est-à-dire que ce soit fait le même jour par les villes volontaires pour que ça nous donne une vision la plus exhaustive possible. Sinon, ce sont des enquêtes, mais ce sont des enquêtes difficiles à faire. Donc, parce que par définition, vous vous déclarez pas sans abri, il faut aller chercher ces personnes.
Bien sûr, il y a un travail de recensement sur le terrain à faire. En juillet 2017, alors vous n'étiez pas encore au gouvernement, mais Emmanuel Macron, président de la République, fraîchement élu, avait dit ceci: « D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois ». Est-ce que ça veut dire que, alors 3 ans après, quand on constate qu'il reste, alors il peut y avoir des divergences sur les chiffres, mais enfin, en tout cas plusieurs milliers de personnes qui dorment dehors en France, que ça veut dire qu'il y aurait un seuil incompressible des personnes que l'on n'arrive pas à mettre à l'abri systématiquement, Emmanuel Wargon?
En fait, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais ouvert autant de places et malgré tout, on a toujours des personnes à la rue. On n'a jamais ouvert autant de places, c'est-à-dire qu'on est 50 000 places de plus aujourd'hui que au 1er janvier dernier.
C'est pas forcément un paradoxe, c'est peut-être le signe qu'il y a davantage de précarité en France aujourd'hui.
Alors, soit c'est le signe qu'il y a davantage de précarité, soit c'est le signe que les flux migratoires ont repris, soit on a des cas dans lesquels on a du mal à proposer une solution aux personnes qui dorment à la rue, acceptable pour elles. Parce que dans les personnes qui dorment à la rue, il y en a aussi un certain nombre qui trouvent que les conditions d'hébergement d'urgence sont en fait pires que de dormir à la rue. Et donc typiquement, là on a lancé avec Olivier Véran le financement de 50 centres pour ce qu'on appelle des grands marginaux, dans lesquels par exemple on peut accueillir les personnes avec leurs chiens. Vous savez que souvent les personnes à la rue, pas toujours, hein, mais sont accompagnées d'un chien, et leur dire vous venez mais pas avec le chien, en fait ça veut pas dire vous venez. Moi je me souviens, j'étais à Toulouse il y a quelques temps, j'ai rencontré une jeune fille qui avait été dans cette situation, qui avait été à la rue très jeune, et qui disait mais non, mon chien c'était tout ce que j'avais, je pouvais pas me séparer de mon chien. Donc, il y a aussi des cas qui sont pas faciles à régler juste en ouvrant des places.
Vous avez évoqué Emmanuel Vargon.
On continue à ouvrir parce que c'est notre objectif de proposer une solution à tout le monde et c'est mon objectif jour après jour, hein, inlassablement.
Vous avez évoqué comme phénomène éventuellement explicatif la question des flux migratoires. Les migrants, justement, il y a eu une affaire cette semaine, cette expulsion lundi soir de la place de la République à Paris. Expulser ces migrants après l'avoir été de leur campement à Saint-Denis. Voilà un extrait de ce qui s'est passé lundi soir, place de la République à Paris. Emmanuel Vargon, ces personnes qui s'étaient installées place de la République, est-ce qu'il fallait les expulser? Première question. Et si oui, est-ce qu'il fallait le faire de cette manière?
Alors, moi je condamne les conditions de cette expulsion. Parce que ces conditions ne sont pas acceptables. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport au préfet de police qui finalement a mené à un rapport de l'IGPN, la police des polices, qui continue ses investigations et des sanctions vont être prises. Et c'est indispensable. Après, les camps, ça n'est pas une solution. Vous l'avez dit, cette histoire, l'histoire de la place de la République, elle démarre avec le camp de Saint-Denis. À Saint-Denis, s'est installé un camp de fortune en septembre, dans lequel en septembre il y avait 250 personnes qui se regroupaient pour dormir. L'évacuation a été décidée en accord avec les principales associations. Nous avons commencé à chercher des places pour permettre à ces personnes d'avoir un endroit pour dormir. La veille de l'évacuation, il y avait 2000 personnes environ sur ce camp, sur ce campement. Le jour de l'évacuation, donc entre la veille et le lendemain, il y en avait 3500. On a réussi à mettre à l'abri un peu plus de 3000 personnes au moment de cette évacuation, c'était le 17 novembre. Il en est resté en gros 500, dont 300 qu'on a retrouvés place de la République.
Est-ce et que justement coup, parmi celles qui se sont retrouvées...
Marlène Schiappa, je finis juste là-dessus, mais ouais. Je me suis engagée avec Marlène Schiappa parce que nous sommes co-responsables de l'accueil des migrants et des demandeurs d'asile. Et moi, je suis responsable d'un accueil inconditionnel auquel je tiens beaucoup. On s'est engagé à finir de trouver des solutions pour ces personnes. Et là, on a ouvert 400 places de plus à destination des personnes issues du camp de Saint-Denis et du coup de la place de la République.
Est-ce que ça veut dire justement Emmanuel
Vargon que... Place de la République, c'était un campement sauvage.
Est-ce que ça veut dire justement Emmanuel Vargon que ces personnes qui ont été expulsées lundi soir ont toutes, se sont toutes vues proposer une solution d'hébergement?
Toutes, je ne suis pas sûre de pouvoir l'affirmer aujourd'hui. Il y avait entre 300 et 500 personnes place de la République et on est à 400 places ouvertes. Donc il doit rester encore quelques personnes que nous n'avons pas encore réussi à accueillir, mais en ordre de grandeur, voyez, l'immense majorité, c'est bon. Il reste probablement encore quelques-uns et puis par ailleurs, ces personnes-là, celles qui sont sorties du camp de Saint-Denis, ne s'étaient pas toutes retrouvées place de la République. Et donc on travaille avec les associations, les accueils de jour, par exemple de France Terre d'Asile, pour pouvoir les identifier et donc leur proposer des places. Mais oui, on va y arriver.
Alors il y a la question de la mise à l'abri des personnes dans les situations les plus précaires, et puis une question qui est un peu plus large, qui est celle du mal logement. Là aussi, alors pour donner un ordre de grandeur, 4 millions de personnes qui seraient mal logées en France, soit parce qu'elles n'ont pas de logement à elles, ça on vient d'en parler, soit parce qu'elles ont un habitat qui est de faible qualité ou qui a une petite superficie au regard du nombre de personnes qui l'occupent. Comment se fait-il, là encore, qu'en 2020, on en soit toujours à parler de ce mal-logement et dans des proportions qui sont aussi importantes, Emmanuel Wargon.
Mais vous avez raison, moi je suis choquée par cette situation et en tant que ministre du logement, c'est ma responsabilité d'améliorer les choses au maximum et le plus vite possible. Il manque des logements, on a besoin de construire plus et en plus on a besoin de construire mieux. Et dans les deux cas, pour ça, on a besoin des maires, parce que ce sont les maires, qui accordent les permis de construire.
Ils ne le font pas assez.
Là où le mal logement est très fort, notamment en région Île-de-France et essentiellement dans les grandes villes, on manque de logements. On manque de logements dans les centres-villes, on manque de logements dans les périphéries et on manque de logements sociaux. On a vu le volume d'agréments de logements sociaux baisser ces dernières années. Cette année, en 2020, évidemment, ce sera une année particulière à cause de la crise, mais il y a besoin de se redonner une ambition de construire du logement en général et des logements sociaux.
Mais si je vous comprends, Emmanuel Wargon, donc ministre du Logement, vous dites ça dépend essentiellement des maires et de leur volonté d'accorder ou pas des permis de construire, mais l'État n'a pas de responsabilité dans cette trop faible quantité de logements construits chaque année ?
En fait, on est partenaire. Donc pour que ça marche, il faut que les deux partenaires fassent leur partie du boulot, si je peux dire. Côté État, c'est le financement. Donc c'est stabiliser le modèle de financement du logement social. Ce sont aussi les aides fiscales à la construction et à l'accession à la propriété. Et j'ai prolongé le prêt à taux zéro, j'ai prolongé les aides fiscales il y a quelques semaines. Côté collectivité, il faut identifier des terrains, c'est pas toujours facile, mais ça c'est aussi le travail des promoteurs et des aménageurs. Et après, il faut octroyer les permis de construire. Et en ce moment, c'est un peu alerte rouge sur les permis de construire. Tout est bloqué. Et c'est alerte rouge ou alerte verte parce que souvent c'est bloqué dans des villes écolo. Et si ces permis de construire ne reprennent pas, alors on aura l'année prochaine encore moins de construction que cette année. Et donc on prendra encore plus de retard face aux besoins. Et on a besoin de logements en général et aussi pour les personnes les plus vulnérables, celles dont on parlait il y a 5 minutes, parce qu'une fois qu'on a des gens dans des structures temporaires d'hébergement, ces personnes, elles ont vocation à aller dans un vrai logement. Et donc cette fluidité, il faut qu'elle ait lieu. Donc ça n'est pas que une question des maires ou que une question de l'État ou que une question des bailleurs sociaux. C'est un ensemble, c'est un écosystème, mais si ça se bloque à un endroit, c'est toute la chaîne qui se bloque. Et moi, je peux mettre toutes les incitations fiscales qu'on veut. Si in fine, il n'y a pas de programme qui sort de terre parce que les permis de construire ne sont pas octroyés, ça ne marche pas.
Je reviens sur ce que vous venez de dire à propos des municipalités dirigées par des écologistes. Si je comprends bien, dans ces municipalités-là, il peut y avoir des réticences à accorder des permis de construire au regard, j'imagine, des considérations qui sont celles de la transition écologique. Or, par ailleurs, c'est un vrai problème, Emmanuel Wargon. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que votre ministère est rattaché à celui de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique et solidaire. Il y a des problèmes d'urbanisation, de métropolisation, problème d'artificialisation des sols. Comment est-ce qu'on fait pour construire massivement, puisque manifestement la France a besoin de construire massivement, tout en respectant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont celles de la France, sachant que le bâtiment est un des principaux responsables de ces émissions?
Alors en fait, c'est possible.
Et oui,
ce qu'il faut qu'on arrive à démontrer, c'est comment on le fait. Mais en fait, on sait le faire. D'abord, dans la construction du bâtiment, vous avez raison, le secteur du bâtiment, c'est 18%, vous l'avez dit, des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est essentiellement le cycle de la construction qui émet, plus que la consommation des bâtiments. Et avec Barbara Pompili, nous sortons l'année prochaine une nouvelle réglementation sur la construction, les normes de construction, qui pour la première fois va plafonner les émissions de gaz à effet de serre du process de construction. Ce qui donc veut dire moins de matériaux qui sont très émetteurs quand ils sont produits, et type le béton classique, et plus de matériaux moins émetteurs, le bois par exemple, les matériaux biosourcés, mais on a aussi des bétons bas carbone par exemple. Donc ça c'est une première réponse. Et après, ce qui permet de construire en ne consommant pas trop d'espace, donc en évitant l'étalement urbain et du coup en évitant d'aller consommer des terres agricoles, des terres naturelles, c'est le bon équilibre entre la densité des programmes, donc des immeubles qui peuvent faire plusieurs étages, et l'aménagement des espaces verts, la manière dont le quartier est organisé, l'accès aux transports en commun, et puis la qualité intrinsèque de la construction. Est-ce qu'il y a des balcons? Est-ce qu'il y a des jardins partagés? Et ça, on a plein d'exemples positifs. Et du coup, il est possible d'octroyer des permis de construire à des constructions qui, parfois, ont 4, 5, 6 étages, sont néanmoins aérées, surtout si elles sont bien implantées dans leur quartier. Et du coup, on a beaucoup de maires qui, après les élections municipales, et c'est vrai qu'elles ont duré longtemps, se disent « Oula, il faut que je regarde tous les permis de construire qui ont été déposés et il est urgent d'attendre ». Certains sont des maires écologistes, je pense à Strasbourg, je pense à Marseille, je pense à Bordeaux.
Il n'y a pas que les maires écologistes, hein. La majorité à laquelle vous appartenez a quand même beaucoup dit qu'il fallait... pas surestimer la percée des écologistes municipales. Là, il ne faut pas faire non plus comme si toutes les grandes villes étaient dirigées par les écolos.
Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur sur le résultat des élections. Et Bordeaux, Strasbourg, Marseille sont des villes dans lesquelles les écologistes ont gagné et je respecte le choix des électeurs.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a sans doute pas des réticences que chez les maires écologistes.
Il y a d'autres maires non écologistes, c'était la fin de ma phrase, donc je suis d'accord avec vous, qui se posent le même genre de questions. Simplement, il faut arriver à trouver une solution par le haut à la question « Si je construis, est-ce que je contribue aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité ?» Et sinon, est-ce que la seule réponse, c'est de pas construire ? La réponse, ça n'est pas de pas construire, c'est de bien construire. Et en fait, on a plein d'exemples en France. On a plein d'endroits dans lesquels les constructions, des constructions en bois, des constructions aérées, des constructions avec un bon équilibre entre espace naturel, espace de circulation et habitation fonctionnent. Je pense à Toulouse, par exemple, où j'ai signé avec le maire un partenariat d'aménagement. On a une grosse opération au-dessus d'une gare de Toulouse. Il y a à la fois de la densité, il y a même une tour, mais il y a aussi des hectares et des hectares de jardins en pleine terre. Et ça crée un équilibre, je crois, satisfaisant.
Donc c'est juste
un appel à dire, c'est possible. Ouais. Il y a des solutions pour répondre aux besoins de logement de façon écologique. Et c'est pas pour rien que le ministère du Logement est rattaché au ministère de la Transition écologique, c'est pour montrer qu'on peut concilier les deux.
Alors vous dites
simplement l'inventer.
Vous dites Emmanuel Wargon, donc on a pris des décisions pour baisser l'empreinte carbone, disons, de la construction de logements, mais une fois qu'ils sont construits, il y a aussi appelons ça le fonctionnement de ces logements et notamment le chauffage. Alors, les logements neufs qui vont être construits à partir de l'année prochaine, si j'ai bien suivi, ne pourront plus être chauffés au gaz parce qu'il y aura des seuils d'émission de CO2 qui seront trop bas pour permettre que ces logements puissent être chauffés au gaz. J'en déduis qu'ils seront chauffés à l'électricité, donc avec l'énergie nucléaire. Est-ce que ça veut dire, Emmanuel Wargon, que vous prenez peut-être le risque, en prenant ces décisions-là, qu'il y ait une tension sur le réseau électrique français, comme on nous l'annonce? Alors, on nous l'annonce pour cet hiver, les mesures qui seront prises ne seront pas encore effectives, mais est-ce que ce n'est pas prendre le risque qu'il y ait des tensions importantes sur le réseau électrique français du fait de ces nouvelles normes de construction?
En fait, non. Je voudrais vous rassurer là-dessus et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les nouvelles normes de construction pour le gaz, c'est 2021 pour les nouvelles maisons individuelles. Et aujourd'hui, seuls 20% des maisons individuelles neuves sont chauffées au gaz. Et à partir de 2024, pour les immeubles collectifs. Ensuite, vous avez raison, la question c'est si c'est pas du gaz, c'est quoi? Et la réponse n'est pas des convecteurs électriques qui consomment beaucoup et qui posent un problème au moment de ce qu'on appelle la pointe électrique. C'est-à-dire quand tout le monde tire sur l'électricité en même temps. La réponse, c'est la connexion au réseau de chaleur quand il en existe. Ce sont surtout les pompes à chaleur qui elles-mêmes fonctionnent avec un apport limité, soit électrique, soit potentiellement au gaz, parce que ça, ce sera toujours possible. Et puis surtout, la réponse, c'est la baisse de la consommation. Le plus important, et ce que vous disent toutes les associations de lutte contre le changement climatique, je pense à Negawatt par exemple, mais il y en a d'autres, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, donc c'est l'enveloppe du bâtiment. Et l'un des intérêts de la nouvelle réglementation qui arrive l'année prochaine, c'est à partir des prochains permis de construire, la consommation des bâtiments doit baisser d'au moins 30%. C'est ça qui va faire la différence. Si le bâtiment est mieux isolé, s'il est mieux conçu, alors il consomme moins.
Est-ce que ça veut dire que vous en appelez aussi, Emmanuel Wargon, à la responsabilité des citoyens français en leur disant chauffez-vous un peu moins?
Pas vraiment, parce que pour le neuf, et après il faut qu'on parle des bâtiments existants, parce que le neuf c'est 1% par an, ça résout pas l'équation l'année prochaine, l'année d'après.
Mais il y a ce qu'on appelle 9, les passoires thermiques, qui évidemment seront un autre problème.
Oui, pour le neuf, en fait la responsabilité c'est celle des architectes, des concepteurs, des constructeurs, des promoteurs. Et à partir de l'année prochaine, la norme qu'on impose, mais qui est similaire à des normes qui ont été imposées en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, c'est une consommation nette de 30% en moins. Et c'est une question de matériaux, c'est une question de conception, c'est une question d'isolation. Donc c'est pas une question de civisme des personnes qui vont s'installer dans ces bâtiments. Et c'est la conception elle-même qui doit permettre de baisser la consommation en moyenne de 30%.
Bon, ça c'est pour le neuf.
Ça c'est pour le neuf. Après, la question qui se pose, c'est l'ancien. Parce que, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, elles sont importantes. Et puis surtout, dans l'ancien, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que quand vous êtes dans ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est-à-dire, en français, un bâtiment où vous chauffez autant l'extérieur que l'intérieur quand vous chauffez, ça vous coûte une fortune de chauffer. Et donc, on a des ménages en précarité énergétique parce que, en général, ce sont des ménages modestes, pas seulement, mais souvent, qui se retrouvent avec des factures de 200, 300, 400 euros par mois, des factures très élevées pour, en plus, ne pas être vraiment bien à l'intérieur, parce qu'encore une fois, vous chauffez l'extérieur autant que l'intérieur. Et là, l'enjeu, c'est de rénover. Donc l'enjeu, c'est de faire des travaux. Notre objectif, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent et le peuvent de faire des travaux. D'où le lancement d'une aide plus simple en début d'année qui s'appelle MaPrimeRénov.
Plus compliqué, ça aurait été difficile, par ailleurs, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de s'y retrouver justement dans les dispositifs d'aide, Emmanuel.
En fait, moi, quand j'ai pris le sujet il y a 2 ans, il y avait d'un côté un crédit d'impôt qui était utilisé essentiellement par les ménages les plus riches. De l'autre, des aides spécifiques versées par l'ANA, l'Agence de l'amélioration de l'habitat, sur d'autres critères. Et puis enfin, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire des remises que vous font les fournisseurs d'énergie. On a tout unifié dans un seul système qui s'appelle MaPrimeRénov. Et franchement, ça marche bien. On va probablement atteindre 200 000 MaPrimeRénov dossiers déposés cette année. On est avec des délais de paiement qui commencent à devenir satisfaisants. On a eu une petite tension, mais on pilote ça de près et ça s'améliore. Et donc voilà, c'est vraiment en train de décoller. Et ça permet de mieux financer quand vous avez moins de moyens. Et c'est quand même mieux qu'un crédit d'impôt où finalement, les crédits d'impôt, les gens qui sont habitués à utiliser le crédit d'impôt, c'est plutôt les ménages les plus favorisés.
Voilà, et on verra si ça permet à la France de rattraper son retard dans la rénovation énergétique des bâtiments. Retard qui était mentionné dans un rapport publié cette semaine par le Haut Conseil pour le climat. Vous évoquiez la précarisation, la précarité. Comme on est déjà presque à la fin de cet entretien, je voudrais quand même qu'on évoque justement la crise. Alors, crise sanitaire qui se traduit par une crise économique et sociale. Est-ce que du côté du ministère du Logement, il y a des craintes que certains foyers se retrouvent dans l'incapacité soit de payer leur loyer, soit de rembourser leurs emprunts? Et est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider des personnes qui pourraient se retrouver dans ces situations?
Oui, moi, vous savez, j'ai une vraie inquiétude sur la partie crise sociale parce que on est passé d'une crise sanitaire à une crise économique et on a un risque de passer d'une crise économique à une crise sociale. Et le gouvernement y est vigilant. Vous savez qu'on a versé beaucoup d'aides exceptionnelles aux ménages bénéficiaires de minima sociaux type RSA, aux étudiants boursiers. Et le Premier ministre a annoncé une aide aux intermittents et aux personnes qui ont perdu beaucoup de revenus, qui, je crois, va être très utile. Malgré tout, on observe les impayés de loyers de très près parce que c'est un signal important de difficulté. Et moi, ce que je veux éviter par-dessus tout, c'est une bulle d'impayés de loyers maintenant qui mène à beaucoup d'expulsions locatives à la fin de la prochaine trêve hivernale.
Est-ce que ces impayés, pour l'instant, vous les voyez ou est-ce que c'est encore
justement,
une crainte ?
En fait, c'est tout le paradoxe là aussi. C'est, on en entend beaucoup parler, mais on les voit pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que ça n'existera pas. Ça veut juste dire que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de signaux. Donc, j'ai demandé à tous ceux qui travaillent sur ce sujet, les bailleurs sociaux, les propriétaires privés, les grandes associations de lutte contre l'exclusion, les départements, les centres d'action sociale, de se mettre ensemble pour regarder quels sont les signaux exacts qu'ils reçoivent et du coup, qu'est-ce qui se passe en vrai. Pour l'instant, on a plus d'appels. Donc dans les associations spécialisées qui ont des numéros d'appel SOS impayés de loyer, il y a plus d'appels, mais il n'y a pas plus de demandes d'aide, ni chez les bailleurs sociaux, ni dans les départements qui gèrent ce qu'on appelle les fonds de solidarité logement, là où on peut s'adresser quand on a un problème pour payer son loyer.
Donc pour l'instant, on en est au niveau de
voilà. On observe ça parce que s'il faut mettre plus d'argent dans ces fonds, s'il faut mettre plus d'argent dans les aides Action Logement, il y a une aide spécifique que nous avons demandée à Action Logement pour les salariés qui a beaucoup augmenté, là, qui a été décidée en octobre. Si ces aides sont consommées, si ça manque d'argent, on trouvera de quoi remettre de l'argent pour financer ces aides. Mais pour l'instant, c'est plus une alerte et donc une observation, une vigilance à ce stade.
Très bien, Emmanuel Margon. Là, c'était particulièrement clair. Il y a un élément, il y a une dimension qu'on n'a peut-être pas abordée dans le cadre de cette émission, mais ça tombe bien puisque c'est le sujet de la chronique d'Antoine Dulster. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et ce thème, c'est la maison individuelle, figure majeure des politiques de logement, qui a pu provoquer quelques malentendus dans les politiques pilotées par l'État ces dernières années.
Oui, on peut même parler de gros ratés hein, avec les projets pourtant ambitieux qui ont été lancés au début de ce siècle. Alors on se souvient des fameuses maisons à 100 000 euros proposées en 2005 par Jean-Louis Borloo pour les ménages à revenus modestes. 20 à 30 000 de ces maisons devaient sortir de terre chaque année. Mais seules quelques centaines ont été livrées, et pas toujours dans des bonnes conditions. On a relevé de nombreux cas de malfaçons, de promoteurs défaillants et même des chantiers laissés à l'abandon. Bref, un fiasco. En 2008, c'est Christine Boutin qui tente de renouveler l'exercice avec un programme de maison annoncé à 15 euros par jour. Pas d'échec retentissant cette fois-ci, mais des difficultés locales, des maires qui ne jouent pas le jeu dans de nombreux cas. Le programme s'est arrêté comme prévu en 2010, sans réussir à impulser une réelle dynamique. Et un certain nombre de professionnels du secteur ont regretté ce nouvel échec, car le diagnostic des pouvoirs publics à l'époque était peut-être le bon. Il y a en France une préférence pour l'habitat en maison individuelle. C'est ce que montrent, Hervé, toutes les enquêtes d'opinion depuis de nombreuses années.
Oui, mais alors Antoine, si cette appétence existe, quels enseignements tirer de ces échecs ?
Alors cet idéal de la maison individuelle n'est pas sans poser plusieurs problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est l'étalement urbain dont vous avez parlé tout à l'heure. La revendication d'un espace privé avec un jardin, et pourquoi pas avec une piscine, pose des questions concrètes en termes de cohésion d'habitat sur le territoire. Les sociologues parleraient aussi d'une forme d'anomie sociale dans ces nouveaux lotissements. En Amérique du Nord, c'est même devenu une source d'inspiration pour des artistes, comme par exemple le groupe de rock Arcade Fire avec un très bel album en 2010, The Suburbs, qui mettait des mots et des sons sur une certaine mélancolie typique de ces banlieues pavillonnaires. Et il y a enfin et surtout la question des transports, souvent compliqués ou inexistants. L'idéal de la maison de banlieue a son corollaire, le tout voiture. On a beaucoup lu et beaucoup entendu que la crise des gilets jaunes s'expliquait en partie par les problèmes spécifiques de ce type d'habitat. C'est ce qui pousse depuis quelques années les pouvoirs publics à tenter de réinventer ce modèle de la maison individuelle, car d'autres types d'habitats individuels aussi existent, maisons de ville, habitats plus resserrés et donc moins énergivores, un élément devenu central en ces temps de transition écologique. Mais ça, évidemment, c'était avant la crise sanitaire. Il y a quelques jours, une enquête du journal Le Monde concluait à une forme de revanche des pavillons de banlieue. En cette période de confinement et de reconfinement, la question de l'espace privé redevient centrale. Bref, à chaque époque, ces crises et ces réflexions différentes forcément sur l'habitat. Va-t-il falloir choisir entre l'espace privé et l'écologie ? La question est ouverte.
Ah ben merci Antoine Dulster et merci beaucoup Emmanuel Vargon, ministre du Logement, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par François Connac avec à la prise de son Clément Daté. Vous pouvez l'écouter et la télécharger sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.